Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une, l'appel de l'archevêque de Kisangani aux rebelles ougandais des ATF, mais aussi aux jeunes Congolais qui ont rejoint à ce mouvement. Marcel Outembi leur demande d'arrêter de s'en prendre aux populations à Mambasa. Appel lancé depuis Bounia, alors que les massacres se multiplient, aggravant la situation humanitaire déjà difficile à Mambasa. Dans ce journal aussi, ces dégâts de la pluie hier dans l'agglomération de Nkolo, territoire de Mbanzangungo, Congo central. On compte de nombreuses maisons écroulées, des champs détruits, environnements saccagés. Les sinistrés dépourvus de tout ont besoin d'aide. La 11e édition du festival Amani démarre aujourd'hui, 10 avril, au complexe scolaire Kiwele de Lubumbashi. C'est pour la première fois que le Haut-Katanga accueille cet événement phare de la ville de Goma. Pour en parler, Vianney Bissimwa, bénévole et membre du comité d'organisation, est notre invité. Bienvenue à cette édition. L'archevêque métropolitain de Kisangani, Marcel Outembi, appelle les rebelles ADF, composés selon lui aussi des jeunes Congolais, à cesser de s'en prendre aux populations civiles dans les territoires de Mambasa. Le prélat catholique s'est exprimé hier jeudi à Bounia à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur de province à la tête d'une délégation d'évêques. Il appelle également la population à s'impliquer davantage dans les efforts de sécurisation de cette région régulièrement ciblée par les attaques des ADF. Suivez un extrait de sa déclaration recueillie par Martial Kizabiamungu.
Le territoire de Mambasa fait l'objet des menaces des forces négatives, de ces forces négatives, particulièrement les ADF, qui sont très actives dans cette région. Nous, comme population, comme société civile, comme fidèles, nous investir aussi à donner notre contribution à l'installation, à la consolidation de la paix et de la sécurité. En fait, dans les ADF, il y a des Congolais aussi. Il n'y a pas que d'Ougandais ou des étrangers. Alors nous lançons un appel, nous lançons un message fort pour que ces frères et sœurs qui sont dans l'ADF puissent se désengager. La vie humaine est très sacrée. Les besoins sont encore là de créer de nouvelles paroisses. Et coup de chapeau à tous les animateurs, du côté politique, du côté ecclésiastique, du côté militaire, du côté société civile. Je donne coup de chapeau et qu'ils aillent de l'avant. Et ça fait notre fierté.
Cette délégation des évêques est allée annoncer à l'exécutif provincial l'installation du nouvel évêque de Wamba, Emmanuel Nguna, prévu ce mois d'avril à Mambasa Centre en Ituri. La situation sécuritaire dans l'Est du pays s'est invitée à la 17e conférence des présidents d'Assemblée et de section Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, rencontre tenue de mercredi à hier jeudi à Lomé au Togo. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale congolaise, Aimé Boji Sangara, a dénoncé le manque d'action concrète de l'APF face à la crise dans l'Est du pays, malgré plusieurs rapports adoptés. Il déplore un décalage entre les engagements et leur mise en œuvre dans un contexte d'instabilité persistante. Il alerte également sur la menace croissante des ADF et appelle à des mesures concrètes au-delà du cadre protocolaire. Je vous propose de suivre Aimé Boji dans cet extrait proposé par Grace Amzati.
Nous insistons en rappelant ici à tout le monde que la situation en RDC affecte toute l'Afrique. On ne le dit pas assez. Parce que très souvent, on pense que, bon, lorsque ça brûle au Moyen-Orient, à cause du pétrole, tout le monde est concerné. Mais la situation en RDC concerne d'abord les pays voisins, mais ensuite notre pays détient des ressources et des atouts qui font de notre pays, hein, nous l'appelons pays solution, lorsque vous regardez les questions environnementales, l'énergie, nous avons le projet Grand Inga qui peut fournir l'électricité à toute l'Afrique. Et donc, lorsque la RDC est en panne, il est difficile pour notre continent et pour l'espace francophone de réaliser ses ambitions de développement. Puisqu'on a parlé du terrorisme ici, je voudrais attirer l'attention de notre organisation sur la situation des ADF. Ils sont en train de causer beaucoup de dégâts sur le plan humain. Je voudrais donc que nous puissions inscrire parmi les questions préoccupantes pour l'espace francophone cette milice islamiste qui cause mort et désolation à l'Est et pourquoi pas envoyer une mission aussi pour s'enquérir davantage.
Voilà, nous allons donc en ce moment sur le terrain dans le Kivu, le sud Kivu exactement, où de nouveaux affrontements ont lieu dans les hauts plateaux du Calais. Les combats se poursuivent encore ce vendredi sur plusieurs axes de ce territoire, notamment Katale et Mubugu, où les FARDC affirment avoir repoussé hier une tentative des rebelles de l'AFC-M23 de s'emparer des localités de Tushu, Nguti et Nyamugali. Conséquence directe de ces affrontements, des milliers de personnes ont fui les combats vers Walikale, dans la province voisine du Nord Kivu, selon la société civile. Que retenir à ce sujet, Jean Gandou?
Le climat sécuritaire se détériore dans la zone depuis mardi passé lorsque les rebelles de l'AFC-M23 ont lancé des assauts sur les positions tenues par les Wazalendo dans deux grandes agglomérations, Ziralo et Tuchunguti. Le porte-parole des FARDC confirmait hier que les deux entités étaient tombées sous contrôle des rebelles le mercredi passé. Depuis ce jour-là, des milliers de populations civiles se sont déplacées en direction de Walikale en traversant péniblement la rivière Kao après l'effondrement du pont. Les FARDC reconnaissent que les combats violents ont conduit les rebelles à occuper la localité des Ziralo. Toutefois, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone, le sous-lieutenant Meya Jérémy, signale la reddition des 11 éléments de la FC-M23 au FARDC. La société civile du territoire de Calais déplore la crise humanitaire accentuée par la reprise des combats et demande aux parties belligérantes de respecter les différents accords de paix qu'ils ont signés à Doha et à Washington.
Merci Jean Gandou. Nous sommes au Kasaï central à prison. Le calme est revenu après deux jours d'affrontements entre les habitants du village Benakasenga dans le groupement de Kajangai et ceux de Bakwanga dans le groupement de Kalunga, territoire de Dibaya. L'information est confirmée par l'administrateur du territoire. Ce dernier indique que des policiers ont été déployés pour sécuriser la population. Il précise aussi que des enquêtes sont en cours pour identifier et traduire en justice les auteurs des accrochages qui ont opposé ces deux villages depuis mardi autour d'un conflit foncier. Il y a eu des morts, des blessés graves et plusieurs maisons incendiées. On écoute Ndayo Ilunga Kalunga, administrateur de Dibaya, et les gens au téléphone par André Katendenga Lamulume.
C'est vrai qu'il y a eu des affrontements malheureux entre deux communautés d'ailleurs qui vivent côte à côte depuis des décennies. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un conflit de limites champêtres qui date d'il y a longtemps et pour lesquels d'ailleurs les autorités ont déjà essayé de réconcilier les deux communautés, mais de temps en temps, ça ne fait que revenir. Pour l'instant, c'est un calme. Nous avons déployé la police qui est encore sur le terrain pour assainir la situation et nous attendons tous les rapports. Pour le moment, personne ne peut bouger. Au contraire, tout le monde est en train de se cacher, surtout les promoteurs ou les meneurs. On est en train de les chercher pour qu'ils soient punis sévèrement. Nous avons ce genre de conflits nécessairement suite à des petits conflits de limites champêtres, de limites entre des localités, des groupements. Notre population n'a pas encore compris qu'il faut vivre en parfaite entente.
Parlons à présent des dégâts de la pluie au Congo central. On compte de nombreuses maisons écroulées, des champs détruits, un environnement saccagé. C'est le bilan matériel après le passage d'une pluie diluvienne accompagnée d'un vent violent hier jeudi dans l'agglomération de Nkolo, quartier Luzolo, secteur de Boko, c'est dans le territoire de Mbansangungu. Selon Victor Nzuzi, président de la coopérative agricole Luzolo-Loatoma, ces intempéries deviennent une tragique habitude, se répétant désormais deux fois par an. Face à l'ampleur des dégâts, il lance un cri de détresse aux autorités pour une assistance d'urgence en faveur des paysans qui ont tout perdu. Il estime que cela permettra aussi de prévenir une crise alimentaire imminente dans la région. Victor Nzuzi et Jean par Alain Roux.
Cette pluie a détruit 20 maisons qui se sont écroulées et le toiture emporté, et plus de 40 maisons en paille dont le toit, dont la paille a été carrément emportée. Dans les champs, les cultures de bananiers, les cultures de maïs ont été carrément terrassées par ces vents violents. La question qu'on se pose, cette situation qui se répète chaque année, deux fois l'année, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, nous lançons un appel aux autorités. Il faudra accompagner le paysan, les accompagner parce que reconstruire une maison n'est pas une tâche facile, surtout à ces moments où les produits agricoles ne se vendent vraiment pas comme il faut, mais surtout à ces moments où chaque année, les paysans perdent leur culture avec des inondations. Le vrai problème aussi qu'on a dans ces milieux, c'est le reboisement qui fait que les villages ne sont plus protégés par des espaces forestiers. Là, nous demandons l'encadrement des agriculteurs dans la construction.
Là, nous sommes à présent dans à Kindu, dans la province du Maniema. La première édition de la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau se clôture ce vendredi à Kindu, dans la province du Maniema. Hier jeudi, l'agriculture était au centre des débats. D'après les participants, le Maniema a été considéré comme un grenier agricole et doit tout faire pour récupérer ce statut. D'autres détails avec le ministre de l'Agriculture, Moindo Nzangi Butondo, au micro de Florence Kizalunga.
J'ai eu l'occasion de partager avec tous les congressistes la politique du gouvernement pour ce qui concerne la relance de l'agriculture pour que la vision du chef de l'État, la revanche du sol, si le sous-sol ne reste pas un slogan, qu'elle soit réalité. La passion que nous avons à partager en tant que fils du Kivu, celle d'encourager les peuples à s'élancer dans l'agriculture, puis que c'est ça qui constitue la grande réserve d'emplois, mais aussi des richesses de notre province. Je leur ai dit que le gouvernement va se concentrer sur 5 piliers. La semence avec la réhabilitation des capsa et des inérats. J'ai parlé des fertilisants et des pesticides, de la mécanisation. Je me dis avec les gouverneurs de province que les tracteurs de Maniema sont en train d'arriver. J'ai parlé aussi des stratégies de production, mais aussi je leur ai parlé des grands projets que nous avons pour le stockage, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Nous sommes en train d'implanter 250 000 plantilles dans chaque territoire, des cafés, des cacao et des palmiers. L'objectif pour nous, c'est que nous voulons que toute la population puisse s'orienter non seulement dans les cultures vivrière, mais aussi dans les cultures pérennes, pour que cela l'aide pour sa propre croissance économique, mais aussi pour qu'il puisse avoir un peu d'argent.
Au Nord Kivu, plus d'une dizaine de jours après le retrait des troupes de la FC-123 de certains villages du territoire de Walikale, les localités de Mpeti et Minjenje dans le groupement de Kisimba restent désertes. C'est ce que révèle le modérateur du cadre interpaysan pour la transformation des conflits de Pinga, CITC, à l'issue d'une récente mission de terrain. Dans son rapport, Julien Bunda indique que quelques habitants commencent timidement à regagner leur village, abandonné depuis plus d'un an à la suite des combats entre l'armée et les rebelles du M23. Il appelle cependant à des actions urgentes de réhabilitation des infrastructures sociales de base, principalement du centre de santé d'un petit totalement détruit pendant la période de guerre, suivant son témoignage.
Dans l'aide de santé d'un petit, le centre de santé qui porte le même nom a été complètement détruit. Suite aux événements de la guerre d'agression, les CITC Pinga réitèrent son plaidoyer au niveau des autorités provinciales, nationales, les humanitaires et autres pour qu'il y ait une reconstruction rapide du centre santé de Mpeti. Parce qu'en fait, après le retrait des troupes de l'AFC M23 des agglomérations des villages Banakindi, la population qui avait fui ces agglomérations commence déjà à regagner le village de Mpeti. Alors, sur le plan sanitaire, ça cause déjà un problème parce que le centre de santé a été complètement détruit. Il convient de signaler que c'est depuis le mois d'octobre 2024 que les affrontements ont été signalés autour des agglomérations d'Mpeti et qui avaient poussé les déplacements massifs de cette population vers les autres agglomérations jugées et sécurisées. Que ce soit sur les plans sanitaires, les besoins sont immenses à tous les niveaux.
Rappelons que le 26 mars dernier, des troupes de la FC-123 s'étaient retirées sans combat des villages de Mpeti, Minjenje et Kanouné. Ces combattants se sont ensuite repliés vers Malemo à l'est du même groupement de Kisimba. Retour en Ituri, les conditions de voyage dans les transports en commun sont jugées quasi inhumaines par de nombreux usagers. Certains véhicules prévus pour 5 passagers transportent jusqu'à 8, voire 10 personnes, et cela sur de longues distances pouvant atteindre 200 km. Une situation qui expose les voyageurs à la fatigue, au risque de maladies liées à la promiscuité, mais aussi aux accidents de circulation. Qu'en est-il, David Mugisa?
Voyager à 8 ou à 10 personnes dans une voiture à destination de Beni, au Nord Kivu, de Mambasa, de Mahagi ou encore de Païda en Ouganda est devenu courant. Selon les passagers, les transporteurs cherchent à maximiser leurs recettes au détriment de leur santé et de leur sécurité. Fatigue, inconfort, risque de contamination, les plaintes sont nombreuses.
Transporter trop de personnes dans un véhicule les oblige à s'asseoir dans des mauvaises conditions, souvent coincées. Cela favorise la propagation de certaines maladies contagieuses liées notamment à la transpiration et à d'autres facteurs. C'est une situation déplorable.
De leur côté, les chauffeurs et responsables d'agences des transports pointent du doigt les services de l'État. Ils dénoncent la multiplication des taxes et des barrières routières qui les contraignent, selon eux, à surcharger les véhicules pour rentabiliser leurs activités.
La route, on paye. On paye des fourneurs, on peut arriver à commande, nous sommes en train de dépenser 17 dollars. Et puis, il y a le prix du carburant qui a augmenté. Le gouvernement provincial aura vraiment la solution sur ça. Nous aurons aussi comment est-ce qu'on peut régulariser leur situation.
Pour l'instant, aucune réaction officielle des autorités compétentes n'a été enregistrée sur cette question.
À Kinshasa, des maisons de paris sportifs se multiplient de plus en plus. Présentes dans presque toutes les communes, elles attirent chaque jour des centaines de personnes, tout âge confondu. Dès les premières heures de la matinée, ces lieux sont pris d'assaut et restent animés jusqu'au soir. Si certains parieurs parviennent à gagner, d'autres continuent de tenter leur chance, nourrissant l'espoir de décrocher un gros gain et de voir un jour leur vie s'améliorer. Joyce Masanka a visité certains de ces endroits. Elle nous en parle dans ce reportage.
Devant les différents points des paris sportifs, les parieurs se présentent souvent en grand nombre. Chacun arrive avec l'espoir de gagner. Les montants misés varient, certains engagent des sommes plus importantes et proposent plusieurs combinaisons pour maximiser leurs chances, tandis que d'autres se contentent du peu qu'ils possèdent, misant sur les hasards pour tenter leur chance. Selon plusieurs analystes, la croissance rapide des établissements de paris sportifs et l'engouement qu'ils suscitent s'expliquent notamment par le chômage et la recherche de gains faciles. Pour certains opérateurs, ces secteurs représentent aussi une véritable opportunité économique.
Oui, la fréquentation a beaucoup augmenté, surtout chez les jeunes. Les jeunes viennent parce qu'ils cherchent des moyens rapides de gagner de l'argent.
Pour de nombreux jeunes, le manque d'opportunités professionnelles les pousse vers ces jeux de hasard.
Je n'ai pas un travail stable, donc je tente ma chance du mieux que je peux. Si je gagne, la question de savoir si je gagne ou bien si je perds de l'argent, de ce que moi je sais, je perds plus que je ne gagne. Mais quand je gagne, c'est plus intéressant. Avec la situation du pays, c'est un peu compliqué d'arrêter de jouer.
La multiplicité des paris sportifs soulève la problématique de l'accès de jeunes à l'emploi.
Actualité internationale.
Des frappes aériennes israéliennes ont de nouveau ciblé le sud du Liban tôt ce vendredi, visant des positions du Hezbollah, notamment dans les villages de Choukine, où des secours intervenaient encore au milieu de décombres en feu. L'armée israélienne indique avoir frappé des sites de lancement de roquettes peu auparavant, après avoir averti d'un risque d'escalade des tirs. Ces échanges se poursuivent malgré des appels à prolonger le cessez-le-feu conclu mardi entre les États-Unis et l'Iran, qu'Israël estime ne pas concerner son conflit avec le Hezbollah. La veille, des frappes israéliennes ont fait plus de 300 morts au Liban, selon le ministère de la Santé, l'un des bilans les plus lourds depuis le début du conflit.
L'invité.
La 11e édition du festival Amani démarre aujourd'hui au complexe scolaire Kiwele de Lubumbashi. C'est pour la première fois que le Haut-Katanga accueille cet événement phare de la ville de Goma. Pendant 3 jours, les artistes, musiciens locaux et ceux venus d'ailleurs vont défiler sur le podium pour agrémenter ce festival. Un accent particulier est placé sur les échanges culturels et la promotion de l'entrepreneuriat sur fond de paix. Pour en parler, Vianney Bissimoa, bénévole et membre du comité d'organisation et notre invité, ils s'entretient avec Jean-Marc Matoki.
Vianney Bissimoa, bonjour.
Bonjour.
Le festival Amani 11 se déplace, débarque à Lubumbashi. Qu'est-ce qui a motivé le choix de Lubumbashi comme ville pour abriter cet événement qui est devenu même le symbole de la ville de Goma?
L'audace d'espérer, l'audace d'essayer. Nous avons dit que la ville qui est prête à accueillir, Lubumbashi nous a accueillis. Ça aurait pu être n'importe quelle autre ville de la RDC, mais Lubumbashi a eu l'audace et a très vite effectivement pris la balle au bon. Lubumbashi est une ville culturelle. J'ai découvert pendant mon court séjour ici beaucoup de centres culturels. Il y a toute une industrie culturelle qui se développe. On n'a pas besoin de festivals pour savoir. Peut-être que c'est caché que les gens ne voient pas, mais j'ai découvert qu'il y a plus d'une dizaine de centres d'incubateurs culturels. Lubumbashi est connue souvent comme la capitale minière. Maintenant, effectivement, elle va être reconnue pour ce qu'elle a toujours été, aussi la capitale culturelle. Et que donc c'est ça le choix qui nous a motivés. Et nous sommes très contents parce qu'on a été bien accueillis. Et moi, je ne regrette pas le choix qu'on a fait.
Il y a quelques artistes qui reviennent pour cette édition, notamment Youssoufa, Inosbi, Ferregola également. Qu'est-ce qui a motivé la sélection des artistes qui vont animer cette 11e édition?
Encore une fois, c'est très simple. C'est eux qui ont pu répondre rapidement. Pour la petite histoire, il y a 2 mois, nous avons décidé que nous n'allons pas avoir une deuxième année sans festival. Et donc, il y a 2 mois, nous avons contacté les artistes, parmi lesquels ceux qui ont déjà présté au festival, et de nouveaux artistes que nous avions à l'esprit. Et ceux que vous avez cités, Ferregola, Inosbi, RJ, Kanyera, Youssoufa, et les autres ont répondu rapidement.
Spiloulou, exactement. Spiloulou aussi.
Et d'ailleurs, c'est eux qui ont dit, nous, on est les enfants de Lubumbashi, nous, on va l'avoir à Lubumbashi. C'est vraiment ça la motivation.
Il y a aussi les habitués de ce festival, dont Voldy Mapen.
Exactement, la jeune prodige de Goma. Donc oui, effectivement, c'est vraiment les artistes qui ont répondu le plus rapidement possible et qui ont dit on y va, c'est ce qui explique le choix. Mais je pense que ce qui nous rassure, nous, c'est que nous avons réalisé en parlant avec eux que que finalement c'est des amoureux du festival. Et ils n'attendent que ça pour pouvoir nous accompagner. Et j'aimerais utiliser votre micro pour leur dire notre reconnaissance. Il y en a qui ne seront pas là, mais qui auraient bien voulu être là, qui avaient des dates déjà bouclées et des rendez-vous déjà pris. Mais ceux qui sont là, vraiment c'est un grand signe de soutien pour nous. Et la raison pour laquelle ils sont là, c'est qu'ils aiment le festival, ils étaient disponibles, ils ont répondu en premier pour saisir la balle au bon.
Alors, le fait que la première ministre elle-même va donner les go, va lancer les activités de la 11e édition du festival à Mani, vous en tant qu'organisateur, qu'est-ce que ça vous fait comme effet?
C'est un grand signal, ça démontre le soutien du gouvernement à cette édition, à la culture, mais aussi et surtout au vivre ensemble. C'est un signe effectivement de l'espoir, c'est un signe que malgré les difficultés, eh bien, elle se tient aux côtés de ceux qui osent malgré les moments difficile. Donc pour nous, c'est vraiment un signe d'encouragement et ça nous réconforte dans notre démarche de dire nous pouvons oser et derrière avoir le soutien jusqu'au niveau le plus élevé.
3 jours de danse, des musiques, il y a aussi les côtés entrepreneuriat pour la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Qu'est-ce qui peut être considéré comme apport du festival à Mani dans ces longs processus du retour de la paix dans la sous-région des Grands Lacs et surtout dans les nord et sud Kivu?
L'espérance de dire que malgré les difficultés, nous avons le courage de nous réunir, d'être ensemble et de continuer à travailler. Et je pense que vous savez, une des choses que la guerre vous prend, une des choses que le conflit armé vous prend, surtout un conflit qui dure 3 décennies, une chose que le conflit vous prend, c'est l'espérance. Les gens perdent la vie de vivre, les gens sont découragés, ainsi de suite. Mais ce que nous voulons, nous vraiment ce que nous voulons, c'est l'espérance. C'est la première chose que nous communiquons. Nous pensons que c'est une maigre contribution. Mais aussi l'écosystème culturel, les industries culturelles qui sont là, nous pensons que c'est important. Et vous savez, les artistes jouent un très grand rôle. Quelqu'un a dit que la culture, c'est la seule chose qui reste lorsque tout a disparu. Et nous pensons qu'en faisant ce festival, les artistes veulent montrer que c'est la culture qui demeure. Mais si le Congo est reconnu, moi j'ai passé plus de 5 ans en Afrique de l'Ouest, notre musique, notre culture, c'est notre ambassadeur itinérant numéro 1. Et donc investir dessus, le promouvoir, c'est magnifique.
Que pensez-vous d'une certaine opinion qui pense que le festival à Mani commence aussi à retrouver un côté business?
Je pense que ça fait sens et je pense que nous, on ne va pas se cacher. Il y a 3 ans, vous m'avez posé la question, je me serais embarrassé. Et j'aurais pu dire non, vous savez non. Les artistes nous ont dit, il ne faut pas regarder ou rougir lorsqu'on lit culture et business. On appelle ça le showbiz. Mais nous, le festival, nous ne sommes pas dans le showbiz. Nous ne faisons pas du lucratif. Il n'y a que 2 éditions pour lesquelles on a pu faire des bénéfices et nous les avons versés au centre culturel. Nous, on ne fait pas de bénéfices. Mais nous voulons que les artistes fassent du bénéfice. Il est important qu'on commence à respecter le métier des artistes. Ceux qui produisent leurs chansons, ceux qui créent par leurs œuvres, doivent vivre de leurs œuvres. Et nous voulons être ce festival qui ne va pas avoir honte de demander aux gens investissez dans l'art, dans la culture. C'est notre ambassadeur itinérant numéro 1.
Après Lubumbashi, quelle sera la prochaine ville qui va abriter le festival à Mani?
Je ne vais pas répondre maintenant au risque que les Lubumbashi me disent. Qui t'a autorisé de dire? Peut-être ici encore, pour une 2e expérience où on va avoir plus d'engouement, plus de motivation. Les gens demandent qu'on revienne encore. Ça fait 2 mois qu'on a lancé cette idée et l'a pris. Peut-être ici, peut-être Goma, peut-être ailleurs. On verra bien.
Vianney, merci.
Merci à vous.
Merci aussi à vous qui venez de suivre ce journal avec Mabel Pongo-Massimango à la présentation, Jean Gandois à la supervision et Jean-Claude Donciel à la technique. Bon début de week-end.